Bon jeudi soir tout le monde, c'est notre petite dernière de la semaine ce soir et c'est jeudi donc ça veut dire que la semaine achève pour vous aussi. J'espère que la journée a été bonne, c'est plus frais aujourd'hui quand même la journée ce matin là. Moi je sors tous les matins promener mon petit chien. Puis il faisait à peu près 13, ça change comparativement au dernier jour.
Ah tu vois, il faisait 7 degrés moi dans mon coin, un peu plus au nord
quand même, hein, ça oui, fait une méchante
différence.
Ma
fille ce matin, c'était la tuque. D'automne, okay. Ouais. Manteau, souliers, ouais, oui, on est loin des gougounes. D'ailleurs, là, j'ai un petit deuil à faire là, de gougounes. Aujourd'hui, j'ai couvert mes pieds. C'est tout le temps de la misère, moi, cette petite période.
Oui, oui, où que, là, tu sens que l'été tire à sa fin. Oui. Mais il reste encore souvent le mois de septembre, là, dans les dernières années. Oui. C'est vraiment un beau mois pour en profiter. Il y a plein de gens qui prennent des vacances, même dans le mois de septembre, justement, parce qu'ils se disent, bon, il y a encore des belles journées. Je pense aux golfeurs qui vont pouvoir continuer encore pour un bon moment. Et ce soir, à l'émission, évidemment, hier soir, on était plus dans... Bien, je dirais dans la division, c'était pas le but, mais on sait que c'est un sujet qui polarise, puis c'est le passeport vaccinal, les gens sont soit pour ou soit... S'ils sont pour, ils sont très pour. S'ils sont contre, ils sont très contre. Mm-hmm. Et on a eu cette discussion hier soir-là avec vous, puis je vous ai dit à la fin de l'émission, demain, on y va dans le plus léger. Et ce matin, j'ai reçu un communiqué de presse de la station de télé Uni qui parlait des 30 ans de Ouattatata, qu'il voulait célébrer ça, qu'il y avait une émission spéciale qui était pour être diffusée sur UniTV le 17 septembre, je crois. Et ça a été la petite flamme d'allumage pour dire, ben pourquoi qu'on parlerait pas de l'émission qui vous a le plus marqué?
Ah oui, et ça vient nous chercher, Ouattatata. Moi, je me souviens, je finissais l'école, on arrivait, il fallait pas manquer ça. Tu sais, c'était vraiment une émission, on dirait que ça nous rappelle toutes sortes de souvenirs, mais il y en a tellement. Aujourd'hui, on s'est plongé là, dans différentes émissions. Je me suis souvenue des émissions que j'écoutais avec ma mère, que j'écoutais avec mon frère. Je me suis souvenue des thèmes d'émissions aussi, la musique. On dirait que ça accompagne ces contenus-là.
Oui.
Ah, j'ai hâte qu'on en parle avec les auditeurs.
Oui, on va en parler avec les auditeurs, puis on va vous faire entendre aussi, parce qu'on a ressorti un paquet de thèmes d'émissions qui datent des années 60, 70, 80, 90. On en a plusieurs à vous faire entendre, évidemment. On va les mettre sporadiquement durant l'émission. Mais d'abord, on va se jaser d'actualité, comme on le fait à tous les soirs, moi et Justine. Ce qui nous a marqué dans l'actualité aujourd'hui, il y avait quand même plusieurs nouvelles, notamment le tribunal qui autorise le plus important montant pour un règlement dans une affaire d'agression sexuelle. On a parlé de cette histoire-là la semaine dernière. On attendait la décision du tribunal et le juge de la Cour supérieure, Christian Himer, a donné son accord à un versement de 60 millions de dollars aux victimes des Frères du Sacré-Cœur. Là, c'est pratiquement un record. La communauté religieuse qui est basée à Sherbrooke est accusée d'avoir posé des gestes de nature sexuelle, mais c'est sur une période de plus de 75 ans. Et il y a eu des agressions comme ça partout au Québec. L'avocat qui est derrière les actions collectives, il s'appelle Maître Robert Cogler. Son cabinet a été contacté par plus de 250 victimes. Et combien d'agresseurs? Près d'une centaine. On parle de 93 agresseurs dans cette histoire-là. On écoute Robert Cogler.
C'est pas souvent qu'on peut utiliser le terme historique, mais le résultat obtenu dans ces dossiers est vraiment historique. Un dossier qui permet à des vraies victimes d'obtenir une justice importante et de commencer à guérir, d'être libérées d'un fardeau qu'ils portent depuis très longtemps.
Alors, les victimes des Frères du Sacré-Cœur ont jusqu'au 30 juillet 2022, donc de l'an prochain, pour soumettre une réclamation. Maître Cogler qui souhaite évidemment que le processus soit terminé rapidement après cette date. Il y aura différentes étapes, là, évidemment, mais ce qu'on souhaite, c'est verser les indemnités le plus rapidement possible aux victimes. Il invite d'ailleurs toutes les victimes à contacter gratuitement son cabinet d'avocats de façon confidentielle pour leur expliquer le processus et obtenir justice.
Le nombre de nouveaux cas de COVID-19, ben, c'est en augmentation cette fois de 14% par rapport à la semaine précédente parce qu'aujourd'hui, on a eu, le ministre en a parlé plutôt cette semaine de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux qui avait dévoilé au ministre ses plus récentes données. Ben, on les a reçues aujourd'hui. Donc, les personnes de moins de 60 ans, ces personnes-là représentent 94% des cas, mais aussi environ 60% des gens qui sont hospitalisés. Les résidents de la grande région de Montréal représentent près de 90% des hospitalisations. Puis quand on dit la grande région de Montréal, le ministre Dubé l'a dit cette semaine, on parlait essentiellement de Montréal et de Laval. Les projections qui font état d'une augmentation du nombre de nouvelles hospitalisations, mais on prévoit toutefois pas de dépassement. T'sais, au niveau des capacités hospitalières, on était à 15-25 %. À court terme, il ne devrait pas y avoir de dépassement.
Et pourtant, un peu plus tôt sur nos ondes, mais il y a le docteur François Marquis, qui est le chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui a mis la table, lui, sur ce qui nous attend, là, selon lui, durant cette quatrième vague de COVID qui s'installe au Québec, parce que qui dit augmentation de gens atteints du virus, dit augmentation des hospitalisations à ses yeux. Et ça inquiète docteur Marquis, qui insiste de nouveau et martèle le message sur la vaccination.
Quand on a un COVID qui arrive, qui est malade, on se sent beaucoup plus équipé pour traiter cette personne-là. Il ne faut pas oublier que le variant Delta est beaucoup plus contagieux que notre bon vieux COVID 1.0. Et il reste présentement assez de gens non vaccinés et assez de gens qui ont une vaccination incomplète pour reparalyser au complet le système de santé à la hauteur de la première et de la deuxième vague. On n'a pas besoin de 70 % de vaccination, on a besoin de 90-95 % de vaccination.
Maintenant, à Montréal, un tunnel de 700 mètres dans le centre-ville qui sera ajouté au projet du REM de l'Est parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de citoyens, de groupes également. Puis là, la Caisse de dépôt a décidé de commander des études à deux firmes d'experts. Ce qu'on a dit, c'est qu'avec la géologie qui est difficile, il y a les tunnels de métro également, bien, il y a une portion du REM qui pourrait quand même se faire sous terre. On va écouter tout de suite Jean-Marc Carbeau, il est vice-président de la CDPQ Infra.
Qu'on amène sur, entre la rue Jeanne-Mance et le centre-ville, là, sur boulevard René-Lévesque, cette solution-là fait à peu près 700 mètres de long. Et ça, c'est la solution.
Les promoteurs qui affirment aussi qu'il y a d'autres améliorations qui seront présentées cet automne, et je pense que c'est attendu par oui. plusieurs, en même temps que les idées retenues pour l'intégration des piliers, des rails, du REM au paysage montréalais, parce que ça aussi, ça inquiète. Il faut rappeler aussi les audiences du BAP, là, du Bureau des audiences publiques sur l'environnement, qui auront lieu début 2022 et mise en service du REM de l'Est qui est prévu pour, dans 8 ans,
quand
2029.
Les recherches qui se poursuivent toujours pour trouver le petit Jake Côté, 3 ans, qui manque à l'appel depuis 48 heures, un peu plus de 48 heures maintenant. L'alerte Amber pour trouver l'enfant, bien, l'enfant qui a été vu la dernière fois, c'était mardi soir avec son père à Sainte-Paul, près de Matane. Ça a été étendu, évidemment, à tout le Québec, mais aussi à quelques sections du Nouveau-Brunswick, le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Quant au véhicule tout-terrain avec lequel le suspect se déplaçait, bien, ce véhicule-là a été retrouvé abandonné autour de la municipalité, oui, de Sainte-Paul. Et le député de Matane, Matapédia, Pascal Birubé, bien, il était sur nos ondes ce midi avec Bernard Drainville. Lui a demandé aux citoyens d'ouvrir l'œil, d'être vigilants.
Chaque jour, chaque heure qui passe nous inquiète, c'est évident, puis ça se passe chez nous. Alors, je sens bien là, les concitoyens qui m'en parlent constamment, là, puis on essaie de faire tout ce qu'on peut, d'être vigilant. Moi, je porte attention beaucoup là, en voiture. Là. Je regarde s'il y a un enfant à côté, puis bon, on fait ce qu'on peut.
On peut pas rester sensible devant cette histoire-là, le petit Jake Côté. On ne peut que garder espoir. Faut dire que l'enquête policière a démontré que le père de 36 ans, David Côté, a des connaissances approfondies du milieu forestier. Il a la capacité de s'organiser rapidement pour la survie en forêt. Donc, il est possible qu'il se cache actuellement. La SQ aussi rappelait que l'homme pourrait être armé, agir de façon impulsive. On comprend, là, les taux se resserrent. Les policiers demandent au public de ne pas se mêler des recherches en cours, mais d'ouvrir l'œil. S'il y a des traces d'infraction, par exemple, s'il y a des choses qui se sont déplacées, tout de suite appeler le 911.
Et on en discutait, moi et toi, dans la salle des nouvelles tout à l'heure, puis on se disait, la maman, on n'a pas entendu la mère. Des fois, ça arrive que dans des cas comme ça, la mère va vouloir parler pour essayer justement d'interpeller le père de l'enfant.
Le suspect,
ben, le suspect,
absolument.
Oui, c'est ça. Puis
absolument.
Là, présentement, il n'y a rien là,
ouais,
de ce côté-là qui se
c'est
passe.
Ça. Je veux voir, j'allais dire j'ai hâte, mais ce n'est pas vraiment ça. Je me demande quelle est la stratégie au niveau, les prochaines stratégies de la Sûreté du Québec dans cette affaire-là. Ça fait,
parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indices. Là.
Ça fait des heures et des heures où se trouve le petit Jake Côté. Et évidemment, on ne peut que souhaiter de le retrouver sain et sauf.
Campagne électorale, donc les chefs qui se préparent en vue du débat de ce soir sur les ondes de TVA. Il y en a déjà qui sont arrivés, on a vu ça à la télé un peu plus tôt. Et au lieu de se préparer au débat de ce soir, bien, il y a le chef du NPD, Jack Metzing, qui devait rencontrer des citoyens dans des parcs de Montréal pour servir, ça me fait rire, sa recette de poutine punjabi. Donc, Jack Metzing, qui était à bord d'un camion de cuisine de rue Orange, à son effigie, évidemment. Mais là, ça n'a pas fonctionné comme il voulait parce que malheureusement, les rues de Montréal étant ce qu'elles sont, Il a pris un nid de poule. Il y a une roue qui est partie. Ce qui fait en sorte que Jock Mitzing s'est présenté 2 heures trop tard à son événement, mais quand même, il y avait encore des gens. Il a pu offrir sa fameuse poutine Punjabi aux gens qui étaient là. Donc, il s'est adressé aux médias dans le parc Préfontaine. Et lui dit que le débat de ce soir, ça va démontrer l'importance de changer de gouvernement.
Parce qu'on pense, dans cette élection, on doit voter différent. On ne doit pas penser qu'on peut accepter ou aborder une 4 ans de plus de Justin Trudeau comme premier ministre. La crise du logement, la crise climatique, la situation s'empirait avec Justin Trudeau comme premier ministre. Donc, on veut changer ça. Et on peut le faire si on ose ensemble.
D'ailleurs, selon notre collègue chroniqueuse politique Françoise Boivin, c'est le début de la vraie campagne là, ce soir durant le débat des chefs, même si la moitié est faite en jour du vote, 20 septembre. Selon elle, ça passe ou ça casse, parfois pour certains chefs à surveiller.
J'ai bien hâte de voir les codes d'écoute. Je ne sais pas si les gens vont être si à l'écoute de ça, de ce premier débat, parce que, bon, c'est quand même le 20 septembre, c'est comme dans 3 semaines, mais on en entend parler, oui, de la campagne électorale, nous, dans les médias. Mais monsieur, madame, tout le monde à la maison, je ne suis pas certaine que c'est un sujet de conversation.
Qu'il y a autant d'intérêt, peut-être qu'on le voit lors de d'autres campagnes.
Ben, c'est ça.
C'est vrai que durant une pandémie, c'est particulier.
L'été.
Il y a tellement
aussi.
D'enjeux, absolument. Effectivement, j'ai hâte de voir est-ce que les gens vont l'avoir écouté? Est-ce qu'ils vont baser aussi leur vote, leur choix final avec ce débat-là? Effectivement, ça sera surveillé.
Et notre question dans le cadre de notre tribune téléphonique ce soir, quelle est l'émission de télévision qui vous a le plus marqué? Évidemment, on va vous entendre aux alentours de 19h. Donc, je ne donnerai pas les numéros de téléphone tout de suite parce qu'on a notre entrevue du jour qu'on a décidé de vous représenter ce soir. C'est celle de Joanne Liu, médecin au CHU Sainte-Justine, professeur spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires à l'Université McGill. Aujourd'hui, on a 699 nouveaux cas. Là, ça continue à augmenter. Un décès supplémentaire. Puis quand on regarde, on parle de troisième dose de vaccin, est-ce que c'est nécessaire? Il y a McGill aussi, c'est la seule grande université au Canada qui n'impose pas la vaccination obligatoire. Les autres universités du Québec non plus. Et la docteure Liu enseigne à McGill. Bref, il sera question de tout ça dans cette entrevue. Alors, on va s'arrêter un instant, il est 18h42. Et au retour, on vous fait entendre l'entrevue et on vous donne également nos numéros de téléphone pour nous appeler avec vos coups de cœur télé, la série télé qui vous a le plus marqué. Notre sujet ce soir, on vous donne la parole sur l'émission de télévision qui vous a le plus marqué. 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850. Mais d'abord, voici l'entrevue qui a retenu notre attention, celle du Dr Joanne Liu.
On accueille maintenant Dr Joanne Liu, médecin au CHU Sainte-Justine, professeur spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires à l'Université McGill. Elle est aussi, vous le savez, ancienne présidente de l'organisme Médecins sans frontières. Dr Liu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je voulais faire le point sur la pandémie. D'abord, écoutez, je regardais votre fil Twitter, Dr Liu, et vous envoyez souvent des messages, vous relayez des articles qui parlent du déséquilibre de vaccination entre les pays riches, comme le Canada, et les pays pauvres. Qu'est-ce qui vous choque tant dans ce déséquilibre?
Qu'est-ce qui me choque tant dans ce déséquilibre? C'est le fait qu'aujourd'hui, on sait que le constat est que plus de 75 % des vaccins ont été utilisés par 10 pays, que l'Afrique a vacciné moins de 2 % de sa population. Donc, c'est vraiment dans ce niveau-là. Quand on sait quel impact a eu la COVID-19 sur nos sociétés, sur nos économies, sur nos hôpitaux, et qu'on sait qu'il y a encore des pays aujourd'hui que leurs travailleurs de première ligne n'est pas vacciné, il y a une certaine indécence par rapport au fait qu'ici, on est vacciné, ça, c'est une très bonne chose, mais que certains pays riches, bien nantis, passent à une troisième dose. Moi, c'est là que je trouve qu'on dépasse un peu la limite de la décence.
Ce que vous dites, c'est que plutôt que d'aller dans l'avenue de la troisième dose pour la population générale, là, dont l'efficacité n'est pas avérée, on devrait envoyer ça dans les pays où il y a peu de vaccination.
Oui, on devrait envoyer ça dans les pays où il y a peu de vaccination parce que aujourd'hui, si on regarde la photo globale, puis si on le regarde aussi avec une optique, je dirais, humanitaire ou de citoyen du monde, probablement que cette dose-là, soit qu'on la donne une troisième dose dans un pays riche, soit on la donne dans un pays où on n'a pas nos travailleurs de première ligne vaccinés, on va probablement protéger plus de gens.
Oui.
On va sauver probablement plus de vies si on envoie ces vaccins-là dans des endroits où il y a peu de vaccination.
Dr Liu, vous êtes nouvellement professeur à McGill. Les universités québécoises, dont McGill, ont choisi de ne pas rendre la vaccination obligatoire sur leur campus. Il y a des universités, il y a plusieurs universités canadiennes hors Québec qui ont fait ce choix-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche des universités québécoises?
Moi, c'est une approche que je trouve dommage. Je pense que j'ai écrit mes pensées dans un article que j'ai publié récemment. Et c'est dans le sens que je me dis, on a peu d'outils dans notre boîte à outils pour optimiser la protection, pour optimiser un endroit sécuritaire pour tous, pour pouvoir étudier et pour pouvoir apprendre. Un de ces outils-là, c'est la vaccination. Et donc, oui, on a des taux qui sont bien, enviables, mais il y a quand même une proportion de gens, et là, ça dépend des chiffres des universités, entre 15 à 20 ne sont pas vaccinés, et ça, ce pourcentage-là, est suffisant pour pouvoir être une chaîne de transmission et probablement faire des éclosions.
Dites-moi, pourquoi les universités québécoises ont adopté une approche différente de celle des universités ontariennes? Les grandes universités ontariennes, on a rendu la vaccination là, obligatoire ou quasi-obligatoire. Qu'est-ce qui explique, disons, la société distincte universitaire québécoise?
Je l'explique difficilement parce que je considère que notre objectif aujourd'hui, c'est de recommencer l'enseignement en présentiel et de s'assurer qu'on va continuer à le faire pour toute l'année. Et donc, ne pas utiliser les outils qu'on a, pour moi, demeure une chose que je suis incapable de comprendre. Les gens ici mettent en avant que la logistique est difficile. On met à l'avant aussi que possiblement des arguments légaux qui ne s'avèrent pas vraiment solides. Pour moi, je ne comprends pas cette approche-là. Mmh. Mon approche, pour moi, c'est... Moi, j'arrive à McGill, je viens de commencer au mois de mai, j'ai envie que l'université reste ouverte, les étudiants veulent être là. Hier, notamment, les étudiants ont même fait une démonstration, une manifestation pour dire, nous, on veut avoir un endroit qui est protégé, qui est sécuritaire pour tous. Donc, on demande un mandat vaccinal et on demande, si les gens ne sont pas vaccinés, qu'ils soient testés régulièrement. Je crois que c'est pas déraisonnable. Et là, c'est nos étudiants qui nous demandent ça.
Vous voyez les statistiques comme moi, Dr. Liu, là, 699 nouveaux cas aujourd'hui, un décès. Ça monte depuis 7 semaines. Mais par contre, belle nouvelle, là, 81% des Québécois de 12 ans et plus ont reçu à ce jour 2 doses du vaccin. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui se sont confirmés, qui ont été disciplinés, mais qui commencent à être tannés et qui se demandent à quel moment est-ce qu'on va pouvoir relâcher?
Oui, et puis moi, je comprends, puis c'est une très bonne question, je comprends la fatigue générale par rapport aux mesures, mais c'est un petit peu difficile à prédire parce qu'il y a des variants, parce qu'on est interconnecté et que là, on ne sait pas quelle sera l'ampleur de la propagation, de la contamination communautaire au travers le Delta. Donc ça, c'est une chose. Puis même si on ne veut pas regarder la photo globale de la planète, mais c'est sûr qu'en décidant de ne pas vacciner une partie de la planète, mais on s'expose aussi à permettre la formation d'un nouveau variant qui un jour va revenir nous voir dans 3, 4, 5, 6 mois puis qui va échapper à la protection des vaccins auxquels on a été inoculé. Donc, tout ça mis ensemble, c'est sûr qu'on peut pas dire que ça... On espère que ça va... que les choses vont bien évoluer, mais il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
Vous le voyez comme moi, Dr. Liu, là, il y a beaucoup de gens qui... Pas beaucoup de gens, c'est une minorité, mais c'est une minorité bruyante de gens qui s'activent contre les mesures sanitaires. On les voit au Québec, on les voit en Ontario. Et j'ai vu là, récemment des images assez troublantes dans l'Ouest canadien, à Vancouver. Il y a une manifestation devant un hôpital. Comment on rejoint ces gens-là? Comment on les raisonne? Est-ce que c'est possible, vous pensez?
Écoutez, je pense que c'est possible. C'est toujours possible de discuter avec les gens, d'expliquer ce qui se passe. Moi, je me dis que si on était capable d'expliquer l'Ebola en République démocratique du Congo où les gens nous lançaient des roches, je ne comprends pas pourquoi on ne serait pas capable d'expliquer avec des arguments ici au Canada les mesures de santé publique et pourquoi on les fait ensemble. Moi, je pense que à quelque part, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de patience, mais je me dis que si on est capable de faire ça ailleurs, on est sûrement capable de faire ça ici.
Dites-moi, la grande leçon de la pandémie pour vous, là, ce qu'on devra retenir à propos du système de santé, quand on va finalement être sorti de la pandémie, c'est quoi cette grande leçon?
Cette grande leçon-là, ben, moi, je pense qu'il y a plusieurs, il va y avoir plusieurs grandes leçons, mais je vous dirais que par rapport à notre approche aux pandémies, c'est pour moi, c'est une façon, c'est un état d'esprit par rapport à comment on se prépare, dans le sens que, pour moi, il faut être proactif au lieu d'être réactif par rapport à ce qui s'en vient quand on a une menace de pandémie. Deux, il faut savoir se préparer au pire scénario et il faut surtout ne pas avoir de pensée magique. On pense que ça va bien aller. Ça va bien quand on est préparé, ça va bien quand on a des plans, des algorithmes, mais attendre de façon passive puis en se croisant les doigts, en espérant que tout va bien aller, un peu comme on est en train de faire avec les universités où on sait que les gens vont être ensemble, où on sait que ça va peut-être devenir un centre d'amplification de la quatrième vague. Moi, c'est ce genre de comportement-là que je... Donc, pour moi, qu'est-ce qu'on faut apprendre, c'est que l'application du principe de précaution, pour moi, est clé dans les pandémies.
En terminant, je vous demanderai pas pour qui vous allez voter au terme de la campagne électorale dans laquelle on se trouve, mais j'ai envie de vous entendre sur ce dont vous on devrait davantage parler dans cette campagne.
Parler dans cette campagne, quelle question. Moi personnellement, parce que j'ai toujours un biais au niveau de l'international, c'est notre solidarité par rapport aux pays au moins nantis. Et je crois aujourd'hui que le Canada était dans une position où on a vacciné énormément. Je crois qu'avant d'offrir une troisième dose à tout le monde, et là, ça n'inclut pas les immunosupprimés, les gens qui ont des conditions médicales, je crois qu'on devrait faire preuve de solidarité collective et de partager nos vaccins avant d'offrir une troisième dose à tous les gens qui ont déjà reçu deux doses.
Et c'est le moment de notre tribune téléphonique. La question que l'on vous pose ce soir à Parlons-nous, quelle est l'émission de télévision qui vous a le plus marqué? On discute tout de suite avec Caroline qui est au bout du fil. Bonsoir, Caroline.
Bonsoir.
Alors vous, est-ce que c'est une émission québécoise ou une émission américaine qui vous a marqué?
Québécoise,
L'été de Caleb. Ah
oui, hein? Oui.
Je me souviens qu'à l'époque... Allez-y.
Non, mais j'avais 7 ans, Avila a été mon premier amour.
Oui, j'imagine, oui.
Je m'en rappelle encore.
Ça, vous avez écouté cette émission-là parce que les parents l'écoutaient, j'imagine, quand on a 7-8 ans, on ne décide pas nécessairement.
Oui, bien sûr, oui. J'écoutais parce que mes parents l'écoutaient. Puis je me rappelle de l'émission où ils se sont séparés puis qu'il est parti en train et je me rappelle d'avoir pleuré pendant très, très longtemps.
Oui, il y avait plusieurs scènes qui étaient assez déchirantes, on s'en souvient. Est-ce que vous avez suivi la suite blanche après ou pas du tout?
Oui. Puis là, ça, j'avais écouté vraiment parce que je voulais, pas juste parce que mes parents l'écoutaient.
Parce que je pense que c'était le jeudi soir que ça jouait, ça se peut-tu?
Je sais pas, mais je me rappelle que c'était tard.
OK, parce que c'est le genre de soirée où quand les filles de Caleb jouaient à la télé, c'était le meilleur moment pour aller faire l'épicerie apparemment parce qu'il n'y avait pas personne. Tout le monde restait à la maison.
Ah. Ça se peut que j'avais un droit spécial de me coucher plus tard à ce moment-là parce que j'étais quand même très jeune. Puis oui, je me rappelle que c'était tard.
Et est-ce que vous l'avez revu depuis en étant adulte, là? Est-ce que vous avez réécouté la série?
Non, jamais, mais je me rappelle de vraiment beaucoup de bouts de cette série-là. Ça m'a vraiment marqué quand j'étais jeune.
Parce que des fois, c'est ça, on écoute quelque chose qu'on a beaucoup aimé, puis après ça, quand on le revoit, on fait comme ça a comme mal vieilli ou donc ça.
Ben peut-être que c'est pour ça que je ne l'ai jamais réécouté d'ailleurs, mais non, dans ma mémoire, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a touché beaucoup, même si j'étais jeune, je comprenais pas tout.
Ben merci, Caroline, de votre appel. Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée.
Je rappelle les numéros de téléphone pour les gens qui veulent nous raconter leur émission de télévision qui les a marqués. 514-790-9850. Partout au Québec, c'est le 1-866-790-9850. Par texto également, il y en a qui nous textent là, présentement. Place Melrose, notamment, oui, émission américaine. C'est le 98-985. Restez là. Et ce soir, à Parlons-nous, on a décidé de vous demander quelle est l'émission de télévision qui vous a le plus marqué. Pourquoi? Ben, il y a UniTV qui va célébrer le 30e anniversaire de Ouattatatar le 17 septembre prochain. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas parler de télé? La rentrée télé, ça approche également. Il y a des émissions qui commencent la semaine prochaine, d'autres la semaine suivante. Et on va discuter également avec Richard Therrien, chroniqueur au journal Le Soleil. Il commente régulièrement l'actualité télévisuelle ici au 98.5. Donc, lui, il connaît ça de la télé. On va lui poser tout plein de questions. Mais d'abord, Justine, j'aimerais savoir avoir toi, ton émission. À toi.
Mon émission. La liste est tellement longue parce que je repensais à plein d'émissions que j'ai écoutées avec ma mère, les grands procès, les machos, le retour, tout. Mais là, je me disais, OK, laquelle, quelle émission m'a vraiment marquée, moi, personnellement? Ben, c'est Les Intrépides. Je sais pas si t'as écouté ça, c'était dans les années 90, Canal Famille.
Jessica Barker.
Oui, qui jouait Julie. On a Laurent Dutch qui jouait Tom. Et c'était deux jeunes qui animaient une émission de radio
c'est
en
vrai,
cachette, un peu pirate. Puis il y avait des enquêtes et tout ça. Bon, là, vous allez peut-être faire le lien avec le travail que je fais maintenant, mais j'adorais ça. Le thème, je le connais encore par cœur. Les Intrépides qui avaient des histoires, ils se promenaient un petit peu partout. Dans Montréal, et j'ai tellement aimé ça. C'était une production qui était autant du côté de la France,
oui,
mais ici au Québec. J'ai adoré ça, mais la liste est tellement longue, il y en a plein, là. Évidemment, plus récemment, District 31, mm-hmm. 19-2, mais au niveau de ma jeunesse, là, vraiment, Les Intrépides. Et tu sais que je réécoute cette émission avec ma fille,
ah,
parce
oui.
que c'est rediffusé sur Prise 2. Oui, elle embarque.
Okay.
Pas autant que moi. Je pense... Je sais qu'elle aime vraiment ça, mais écoute, c'est des beaux moments. Je me souviens, on dirait, des moments où je l'écoutais. C'est ça aussi, hein? C'est les émotions qui reviennent.
Oui, oui, vraiment.
Vraiment. Alors, c'est mon coup de cœur, Les Intrépides.
Ben, voici le mien. Vous reconnaissez le thème de Chambre en ville.
Oh.
J'étais adolescente quand Chambre en ville est sortie, puis c'est vraiment... Écoute, même que les comédiens Pete et Lola sont venus à mon école secondaire. Puis on avait la chance d'y rencontrer. Puis je me souviens très bien que Francis Reddy, à ce moment-là, tout le monde voulait le rencontrer. Il était davantage connu. Lola Anne Dorval, on la connaissait pas beaucoup. Puis tu sais, elle avait un rôle un petit peu... dans les premières années, on l'aimait moins.
Elle était plus peu... bad girl.
Ouais, c'est
peu.
Ça. Ah non, non, moi j'ai aimé ça. Je les ai réécoutés aussi parce que ça a été rediffusé. Mais ça a vraiment marqué mon adolescence. Donc, c'est
oui.
la question qu'on vous pose ce soir. Quelle est votre émission à vous? Puis, ça peut être une émission américaine aussi. Là. On n'a pas de préjugés, là. Peu importe. C'est pas grave. Américaine, québécoise. L'émission qui vous a le plus marqué, 514-790-9850 ou encore le 1-866-790-9850. Et tu as déjà des commentaires.
Ah oui, j'ai déjà des commentaires. Il y en a qui me disent, la série plus récente, Louise, qui me dit « M'entends-tu? C'est marquant par son réalisme. » On a Carl qui nous dit « Amicalement vôtre avec Tony Curtis. » Oh, et Roger Moore. Moi, je ne connais pas ce succès, mais lui, ça l'a beaucoup marqué. Évidemment, ce qui revient beaucoup, La petite vie. On peut pas passer à côté. Les Bougons également.
Okay.
Un peu comme tantôt notre auditrice qui a appelé Chantal dit les filles de Caleb. Et ça, sur la messagerie texte 98985, ça revient. Mm-hmm. Les filles de Caleb. J'ai hâte d'ailleurs d'entendre là-dessus Richard Terrien. On dirait que tout le monde va avoir été marqué par les filles de Caleb.
Ouais.
Peu importe la génération.
Oui, oui, oui. Puis il y a plein de scènes qui nous reviennent en tête.
C'est incroyable. Alors, on veut vous entendre. 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850. Tout de suite, je m'en vais de l'autre côté pour prendre vos appels.
C'est bon, on va discuter tout de suite avec Mélanie qui est là. Bonsoir, Mélanie.
Bonsoir.
Alors, vous, de votre côté, quelle a été l'émission qui vous a le plus marqué?
Celle qui n'a pas duré longtemps, malheureusement, c'est Urgence, la série québécoise. Ça a
oui.
duré peut-être l'équivalent d'une saison.
Avec Marie Norcini.
Ça m'a tellement marqué, oui, ça m'a tellement marqué que j'en ai fait mon métier depuis 18 ans.
Ah! OK. Oui. Fait que là, vous travaillez vous-même, vous êtes urgentologue ou infirmière? Ou?
Pas du tout, je suis paramédic.
Ah, c'est bien le fun, ça.
Et c'est ça qui m'avait le plus marqué dans cette émission-là.
Fait qu'il y a des émissions qui peuvent être marquantes à ce point qu'on décide finalement d'en faire notre métier, là. C'est pas rien?
Non, j'ai effectivement décidé d'en faire mon métier et j'ai tout le temps la passion comme si j'étais à mon premier jour assis en classe et à mon premier jour assis dans l'ambulance.
Oui. Est-ce que vous trouvez que ce que vous avez vu dans la série, c'était représentatif de ce que vous vivez, vous, dans votre travail?
En partie, oui. Et l'autre partie, non. Okay. On a beaucoup plus d'aide au niveau psychologique que juste de l'urgence, où est-ce qu'il y a des gros accidents, où est-ce que les vies sont énormément en danger. On a beaucoup plus d'aide psychologique à apporter autant aux aînés qu'aux plus jeunes maintenant.
Ben merci beaucoup de votre appel, Mélanie.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. On va discuter avec Richard Terrien, chroniqueur au Journal Le Soleil. Il commente régulièrement l'actualité ici, Actualité Télé, évidemment. Bonsoir, Richard.
Bonsoir, Valérie.
Alors, dis-moi. Je veux t'entendre parce que toi, évidemment, des séries télé, t'en as regardé à la tonne. Si je te demande d'en choisir une, celle qui t'a le plus marqué, es-tu capable d'avoir ça?
Ben, Ben oui, mais là, tu m'as un peu volé mon coup de cœur parce que moi aussi, c'était Chambre en ville.
Okay.
Ça a marqué ma vie parce que j'avais le même âge, moi, que les personnages. Je commençais mon cégep en même temps qu'eux autres. Et j'ai un peu la nostalgie de cette époque-là où on regardait la même émission, tout le monde en même temps, et le lendemain, on en jasait au cégep. Nous autres, on parlait d'Annick, puis de Lola, puis de Pete.
Ouais.
C'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Tu sais, tu parlais des filles de Caleb tantôt. C'est vrai que les rues étaient vides parce que le jeudi soir, parce que les gens regardaient ça. Mais c'est vrai que ma série préférée d'entre toutes, ça reste Les Invincibles. Ça, moi, là, ça a été un immense coup de cœur, je trouve. Que c'est venu changer la télé. Ben oui, quelle musique! Et quelle finale! La finale de cette série-là est d'une perfection, là. Moi, c'est un gros trip que j'ai eu avec Les Invincibles.
Mais tu sais quoi? Moi, j'ai regardé Les Invincibles pour la première fois cet été grâce à TOUIN.TV parce que j'avais jamais regardé cette série-là. Puis là, c'était disponible. Puis je me suis dit, ah, let's go, tout le monde a vu ça, faut que je l'écoute. Puis comme tu dis, c'est, ouais, c'est vraiment série marquante.
C'est sûr que ça a vieilli un peu, hein. Même si c'est en 2005, la télé évolue vite, hein. Alors,
ouais,
c'est sûr qu'il y a des petites choses que tu dis, OK, on ferait plus ça de même. Mais quand même, ça reste une bonne série.
Mais tu dis justement, c'est ça, il y a des séries qui vieillissent plus mal que d'autres, mais est-ce qu'il y en a que tu as vu que tu dis, ah, ça vraiment, là, je le réécouterais. C'est vraiment comme c'était dans le temps.
Comme c'était dans le temps. Mais je pense que les séries d'époque, c'est drôle, elles vieillissent bien parce qu'elles étaient déjà d'époque quand on les a vues. Tu sais, comme Les Filles de Caleb, quand même, ils repassent souvent le temps d'une paix là, après 50 fois, là, c'est assez. Là. Mais d'ailleurs, c'est ce qui pogne le plus. Hein. Quand ils rediffusent les belles histoires des pays d'en haut, le temps d'une paix, ces séries-là, ça marche mieux que... Tu vois, comme Des Dames de cœur, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps... Les coiffeux, tout est démodé. Là.
Ouais.
Alors, c'est sûr qu'il y a un gros clash avec 2021, mais il y a quand même le phénomène. Hein, le phénomène de ces femmes-là qui étaient à la maison, qui voulaient juste aller travailler parce qu'ils s'ennuyaient à faire du repassage. Mais ça existait. C'était ça qu'on vivait dans cette époque-là. Les femmes étaient à la maison. Pis,
c'est vrai.
Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Là. On est complètement ailleurs. Mais c'est un portrait de l'époque.
Écoute, Richard, je vais t'arrêter un petit instant. On va aller discuter avec Marc, qui est au bout du fil, pour savoir quelle est sa série à lui. Marc, bonsoir. Vous êtes là, Marc?
Oui.
Oui.
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends bien. Donc, quelle est l'émission qui vous a le plus marqué à la télé?
Ben moi, dans le téléroman, c'est vraiment Cormoran, là, que j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Là. Je l'ai écouté pas dans ma jeunesse, mais je l'ai écouté il y a quelques années quand ça passait à la télé.
OK. Puis qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à cette émission-là, étant donné que ça avait été déjà diffusé?
Ben quand j'étais jeune, je l'ai pas écouté, j'étais trop jeune, là, parce que j'ai 47 ans. Puis c'est vraiment la qualité des textes puis tous les personnages là, les acteurs, et c'est vraiment extraordinaire comment c'était bien fait, puis tous les décors, puis ça nous faisait vraiment voir la vie d'autrefois là. Mais par contre, le temps d'une paix, j'ai trouvé ça plutôt plate, même si c'est le même réalisateur, c'est les mêmes acteurs là. Mais et après ça, je voulais vous dire que dans l'humour, là, c'est vraiment du tac au tac avec Michel Forget puis Poivre et sel.
Oui, oui, oui.
Que j'ai tellement adoré. Puis pour finir avec La Sirène américaine, parce que j'ai pas écouté beaucoup de séries dans ma vie là, que j'ai accroché, là, mais Sirène américaine j'adore. J'ai tout aimé avec J.R. puis
Ben oui, Dallas.
Oui, j'ai fait le tour.
Merci. Merci beaucoup, Marc.
J'ai tout dire accroché. Merci, bonne
soirée. Au revoir, on discute avec Gino maintenant. Bonsoir, Gino.
Bonsoir, Aboudou.
Alors vous, quelle est l'émission qui vous a le plus marqué, là?
Moi, mon émission qui est le plus marquée, c'est Bobino.
Ah, OK. Ça, vous étiez tout petit?
Oui, j'étais tout petit, puis j'arrivais de l'école, puis je disais à ma mère... Je peux-tu écouter l'émission Bobino? Elle me dit oh, oui, fait que moi j'écoutais ça, puis ça m'a marqué un petit peu. Puis Guichange, là, il y avait un chalet aussi d'abord Saint-Laurent à Saint-Fabien.
Ah, OK. Est-ce que vous avez eu la chance de le rencontrer?
Non.
Parce que Bobino, ça a joué, Richard, ça a joué longtemps, joué, ça?
Puis, ah oui, ça des décennies. Oh oui, puis ce qui est intéressant, c'est avez-vous remarqué que sais, les gens qui disent qu'ils s'intéressent pas trop à la télévision, tu leur parles des émissions de leur enfance, là, puis là, ils s'allument, et là, ils partent toutes sortes d'affaires, ils racontent, puis là, ça déboule, puis là, les autres participent. Les émissions de notre enfance nous ont marqués. Moi, c'est Passe-partout, j'avais 5 ans en 1977, je les ai vus 100 fois, c'est sûr que c'est... Puis ça forge les adultes qu'on est, en quelque sorte. Fait que c'est sûr que c'est des bons souvenirs, les émissions pour enfants.
Puis Gino, si je vous demande une émission un peu plus récente là, qui vous a marqué, ce serait laquelle?
Récente, je pense que c'était aussi Chambre en ville aussi.
Ah, OK. C'est bon. Ouais. Ben oui, c'est ça, Chambre en ville. C'est sûr que ça a marqué plusieurs générations. Merci de votre appel, Gino.
Merci. Bonne soirée à vous deux.
Merci. On va s'arrêter un court instant. On va aller à la pause et au retour, on va continuer notre discussion, évidemment avec Richard Therrien, mais avec vous, chers auditeurs, ça vous tente de nous parler de votre coup de cœur, l'émission de télé qui vous a le plus marqué. 514-790-9850 partout au Québec, c'est le 1-866-790-9850. On est dans la nostalgie ce soir parce que c'est sûr que quand on pense aux émissions de télévision qui nous ont marquées souvent, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien de se remémorer ces souvenirs-là. Et Justine, tu as plusieurs réactions pour nous.
Ah oui, on a quelqu'un qui nous dit, un Pierre en fait, qui nous dit, moi c'est Cosmos 1999.
Oui.
Avec la belle Elena. Tu connais ça, toi?
Bien, je connais ça. Je ne l'ai jamais regardé vraiment parce que moi, les science-fiction, c'était pas. Je ne trippais pas là-dessus.
On a Stéphane qui dit Découverte et la semaine verte. Pour moi, ça a été marquant. On a une autre personne qui dit Série noire avec le fameux personnage de Marc Arcan. Beaucoup de gens qui nous ont écrit ça. Scoop! Moi, je me souviens de cette série-là. Ben oui, avec Macha Grenon, notamment dans une salle des nouvelles. Oui. Jasmine, est-ce que tu te souviens de cette série-là avec série Linda Malo?
Oui.
Oui. Série policière, c'était très bon
avec
aussi.
Avec Isabelle,
On va demander à Richard Therrien tantôt, c'est sûr qu'il s'en souvient.
Oui, c'est Isabelle Richer.
Merci.
Isabelle Richer.
Merci,
c'est ça. Vraiment. Puis est-ce que c'est dans ses premières émissions marquantes, hein?
Oui, puis c'était à l'époque là, ça dérangeait un peu parce que je pense qu'elle était lesbienne, c'était quand même nouveau. Oui. Puis il y avait des questions raciales aussi, il y avait du racisme là-dedans, fait que ça avait fait beaucoup jaser à l'époque cette série. Là, ça n'a jamais été rediffusé malheureusement.
Oui, malheureusement. Puis pourtant, on a beaucoup d'auditeurs qui nous réécrivent ça. Moi, je me souviens d'avoir écouté ça. La série La Vie. Beaucoup d'auditeurs nous ont texté ça. 98985. Ça, il me semble, c'est comme une série culte, hein?
Oui,
générationnelle. Série culte. Ça a changé aussi. Je parlais des Invincibles qui ont un peu changé la télé. Ça aussi, il y a des gens qui ne regardaient pas les téléromans qui ont aimé La Vie. Ça allait chercher une génération.
Et au niveau américain, il y a quelqu'un qui nous écrit pour 24 avec Kiefer Sutherland.
Oui.
Que ça, c'est une émission que la personne dit « Je pouvais regarder ça jusqu'à 3 heures du matin parce qu'il y avait tellement... Tu finissais l'épisode puis tu voulais aller tout de suite au prochain. » Ouais, tu sais, genre d'épisode qui tient devant la télé, là.
On a quelqu'un qui nous écrit 4,5.
Ah, ben oui, ça aussi, ça a joué longtemps, 4,5.
Absolument. Et ce qui revient beaucoup, c'est Omerta. Et je suis d'accord, c'était une grande série. Je pense que Richard Therrien aussi va être d'accord.
Ah oui, c'est Luc Dionne qui écrivait Omerta, c'est celui qui fait District 31. Oui, ça a vraiment été marquant. Ça a été une grande série, Michel Côté, Luc Picard. Puis je les ai revus dernièrement, puis je trouve pas que ça a mal vieilli. Je trouve que c'est encore une bonne série, oui.
Ça, c'est-tu disponible en quelque part qu'on peut l'écouter, là, présentement?
Ben, là, tu vois, celle-là, je pense que je l'ai vue à Art TV. Okay. UniTV repasse beaucoup. Si on parlait de Chambre en ville, ils repassent Chambre en ville, ils repassent Ouattatata, évidemment, là, dont on va fêter l'anniversaire. Il y a beaucoup de rediffusions sur UniTV parce qu'ils rediffusent ça pour la francophonie à travers tout le pays.
Okay.
Alors, vous pouvez attraper ça. Puis eux, ce qui est le fun, c'est que quand ils commencent une série, ils la finissent. Okay. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres chaînes.
Écoute, Richard, on va discuter tout de suite avec Diane qui est au bout du fil. Bonsoir, Diane. Vous êtes là, Diane? Bon. On va parler avec Patrick. Bonsoir, Patrick.
Oui.
Oui, c'est à votre tour, Patrick.
Moi, c'était dans le temps que je suis en 77. Moi, j'ai écouté ça en 87. J'avais 10 ans. Là, c'était K2000 avec la Transam. Là, la Transam avec la lumière rouge. Là.
Oui, David Hasselhoff, qui jouait dans Baywatch par la suite.
Oui, c'est ça. Puis là, j'avais un petit coup avec ça. J'avais un, un petit monologue, là, il disait un héros d'État moderne, dernier recours des innocents et sans espoir, victime d'un monde cruel et impitoyable, Michael Knight. avec le char d'attendant, c'était Kit. Là, c'était Kit 2000, son nom, il parlait.
Ah! Il exactement.
Hey, ça, j'ai capoté là-dessus, là. Quand j'étais petit cul, j'ai essayé le petit char électrique, là, 2000, j'allais oui. avec les chars, pis tout, tu prenais sur le bouton, pis ça disait Night Driver en anglais, là. Aïe, aïe, avec le volant super, un petit volant le petit volant était en petite forme de. Il était pas rond, il était c'était un volant comme un big wheel, là.
OK. Mais en tout cas, on voit que ça vous a marqué. Merci beaucoup de votre appel, Patrick.
OK, bye bye.
Bonne soirée. On va discuter avec Sylvain maintenant. Bonsoir, Sylvain.
Ah, bonsoir, Valérie. Comment allez-vous?
Ben, ça va, vous?
Oui, je suis content de vous parler.
Donc, votre émission à vous qui vous a le plus marqué, c'est laquelle?
Ben,
c'est
comme je disais tantôt à Justine, il y avait Chips.
Oui.
Oui. L'émission Chips avec.
Punchorello, je sais pas quoi, là.
Oh, oui. Ouais. Eric Estrada.
Oui.
Et Larry
oui.
Wilcox.
Oui. Oui. Puis il y avait Sweat aussi.
Sweat, oui. Oui, oui, oui.
Ça, c'est Chips.
À cette époque-là, les séries américaines, il y en avait à l'année, tous les soirs, à Télémétropole et même à Radio-Canada, en pleine saison. Tu sais, Dallas, c'était à Radio-Canada, la Loise de Los Angeles, c'était à Radio-Canada. Aujourd'hui, tu vois plus ça pendant la saison. Il y en a très peu, mais à l'époque, il y en avait beaucoup plus.
Parce que dans le fond, on n'avait pas de production québécoise.
Il y en avait moins.
C'est ça.
Oui, il y avait moins de séries québécoises, puis les téléromans étaient plus. C'était des demi-heures souvent, alors ça laissait de la place dans la grille à l'époque. Oui.
Et je comprends bien que M. Therrien, excusez-moi si je vous
interromps. Allez-y, Sylvain.
Tantôt, M. Therrien disait il y en a tellement qui vont passer des anciennes émissions de comme Peau de banane, Chambre en ville, que vous avez dit tantôt. Je le savais pas. C'est à quel poste ça va passer, ça?
Uni-TV. Puis il y a Prise 2 aussi qui passe beaucoup d'anciennes séries québécoises. Oui, il passe La petite maison dans la prairie aussi, qui est une série qui était très regardée à l'époque, oui.
Il y en a tellement, on prend en jaser tellement
ben oui,
la soirée.
Ça. Merci beaucoup de votre appel, Sylvain.
Hey, bonne soirée.
Bonne soirée. Il y a Marc qui est au bout du fil. Bonsoir, Marc.
Hey, bonsoir. Là, vous me rappelez plein de souvenirs. Moi, là, je vais vous dire, j'ai 58 ans. J'étais un éternel ado qui trippe encore ses jeux vidéo, même si j'ai 58 ans.
Okay.
Il
n'y
a pas d'âge pour ça. Et la télé, je suis un passionné de télé, d'abord parce que, bon, j'ai travaillé dans le milieu des médias dans les années 80. J'ai fait de la radio. Puis je me suis approché de ce milieu-là, j'ai eu la chance, le groupé que je suis, de parler avec des gens, qui des faiseurs de séries télé. Et notamment dans les années 60, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était ça les gobelets. Il y avait zéro budget, zéro, c'était des textes, des personnages complètement capotés. Ils m'ont fait voyager dans mon imaginaire, évidemment Bobino, tout le monde, Fanfreluche, j'ai tout trippé sur Fanfreluche. C'était à l'époque des années 60-70. Des années plus tard, milieu des années 70, fin des années 70, L'Homme de 6 millions.
Ah, ben oui.
Je pense que
oui.
À l'époque, avant ça, on jouait au cowboy aux Indiens. À partir de ça, on jouait à L'Homme de 6 millions. Et je vous le dis,
oui.
Là, on se battait au ralenti. Là.
Oui. Moi, je préférais la femme bionique.
Oui, moi avec.
J'adorais la femme bionique. Hein? On faisait le bruit, là, puis on sautait comme elle dans notre cour. Oui, oui.
Tous les gars avaient un béguin pour Jamie Summers. Hein? Tous les gars, ils trouvaient adorable, oui, à l'époque. Après ça, évidemment, il y a qu'à 2000, Knight Rider, dans les années 80. Moi, j'ai capoté sur Omerta. Au début des années 90, Omerta, là, Luc Dionne, c'est un génie. On n'a rien à envier aux séries états-uniennes, même si on les a beaucoup écoutées parce qu'on les a matraquées. La petite maison dans la prairie. J'ai tout ça. Moi, j'ai un disque dur de 8 téra, 10 téra. J'ai plein de séries télé. Nommez-moi ce que vous voulez, je pense que je l'ai.
Puis
la petite maison, j'ai des 9 saisons. Ça a été, bon, c'est très familial, c'était très cute.
La petite maison dans la prairie a longtemps détenu le record d'écoute avant que le temps d'une paix arrive. Alors, ça vous donne une idée comment les séries américaines faisaient partie de nos vies là, à l'époque.
Complètement. Complètement. Ouais. Et évidemment, à notre époque, District 31, évidemment. Évidemment, j'ai beaucoup aimé Unité 9.
Mm-hmm.
Et dans l'humour, évidemment, La Petite Vie. Qui n'a pas trippé sur La Petite Vie? C'est la championne.
Ben justement, j'ai une question pour Richard. Parce que Richard, quand La Petite Vie est sortie, est-ce qu'au départ, on s'est dit, est-ce que ça va fonctionner pour vrai, cette série-là? Est-ce que les gens vont embarquer?
Non, parce qu'au début, ils avaient décidé de programmer ça juste avant la soirée du hockey le samedi. Et ça a eu un succès mitigé. Okay. Et là, ils ont envoyé ça le lundi. Et c'est là que ça a explosé. Ça n'a jamais diminué après. Et la série est encore diffusée à l'automne à 18h30 la fin de semaine, le samedi, je pense. Et ça fait encore 900 000, 1 million. Là. C'est des vieilles reprises.
C'est incroyable.
Ça. Alors, il y a vraiment un attachement à cette série-là.
On va jaser avec José maintenant. Merci beaucoup, Pierre, Marc, de votre appel. José, bonsoir.
Allô?
Alors, vous, votre émission?
Bien, on vient de le nommer.
Oh,
la petite okay. prairie était vraiment dans mes tops. Mais il y avait Entre chien et loup.
Ah, oui, 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 avec Bedeau puis...
Oui, et voilà.
Et Laïs Bronsard, moutarde noire.
C'était tellement extraordinaire. Il y avait Nick Pic en ballon, je ne sais pas si les gens se rappellent. Picotine.
Oui, Picotine.
Oui.
Et Centour de Centour et les Oraliens. Écoutez, ça, là, c'était ce qui était le plus extraordinaire pour moi dans mon enfance, les Oraliens. C'était tellement spectaculaire. Deux personnes avec deux espèces de boules oranges.
Oui, c'est ça. Mais quand on regarde ça aujourd'hui, c'est ça. Ça, on peut dire que ça a peut-être un peu mal vieilli. Hein?
Ça a peut-être mal vieilli, mais ça a tellement fait mon bonheur.
C'est ça. Hein?
C'est ça.
Mais les émissions comme Picotine, là, puis tantôt on parlait de ça, les gobelets, ça c'était avant que les pédagogues arrivent. Je veux pas parler contre les pédagogues, moi je suis de la génération passe-partout. Mais il y a des gens qui sont nostalgiques de cette époque-là parce qu'on pouvait se cogner sa tête avec des battes de baseball. On pouvait faire des affaires qu'on ne faisait plus par la suite parce que c'était comme pas... c'était pas politically correct, là, tu sais.
Je sais pas si alors, mais c'était l'époque où on était des enfants et justement on était des enfants.
Mmh. Oui, oui, la riboudine, tout ça.
Quelque
là.
Chose, on voulait, on s'amusait. Un enfant, tu dis le mot pète et ça rit. Ben moi, cette époque-là me manque un peu aujourd'hui. On dirait, hey, mon Dieu, c'est pas éducatif, c'est pas si. Ben non, je me rappelle, c'est tellement des beaux souvenirs. Puis là, je suis rendue dans cinquantaine avancée et je m'en rappelle encore. Et
ouais.
Même vous chantez la chanson Picotine, celle de Fanfreluche.
Oh, ben, je m'en souviens, moi aussi.
C'est encore très clair dans ma mémoire. Et même que mes enfants, qui sont aujourd'hui âgés de plus de 20 ans, me disent d'où ça sort quand je me mets à chanter. Mais ça sort d'un imaginaire qui avait ni queue ni tête, mais qui était tellement extraordinaire.
Ben, José, quand on pense aussi à Monsieur Tranquille, ça aussi, c'était complètement flyé, là.
À Patoff, tu sais, on s'entend dessus que... Tu sais, même, comment qu'elle s'appelait?
C'est beau.
Monsieur Tranquille. Non, on apprenait peut-être pas rien, mais on apprenait, savez-vous quoi, à être des enfants, puis à se laisser aller, puis à s'amuser, puis à trouver ça drôle, sans savoir pourquoi c'était drôle, mais ça faisait du bien.
Merci beaucoup, ouais. José, de votre appel.
Merci.
Et on parlait, Richard, justement, tu sais, comme passe-partout. Moi, je me souviens qu'à l'école, on écoutait ça passe-partout dans les classes, là.
Oui, puis les Oraliens puis les Centours de Centours aussi, ils apportaient des grosses télévisions sur des espèces
de
avec des roulettes, oui, là. Oui. Puis là, c'était imposé par le ministère de l'Éducation. Puis moi, passe-partout, c'était sacré dans ma tête. Puis quand ils ont annoncé qu'ils refaisaient ça il y a 3-4 ans, j'ai crié quasiment au scandale. Et c'est un immense succès. Toute une nouvelle génération qui a découvert ça. Et puis, finalement, je me suis dit, c'est pas nous autres qui doit aimer ça, c'est les enfants d'aujourd'hui. Puis mm-hmm. Si les enfants aiment ça, ben ça veut dire que c'est un succès.
Oui, mais il faut dire qu'on a conservé quand même ben, les textes. On n'a pas changé grand-chose. T'sais. Oui, ça, c'est dans le monde moderne, mais c'est les mêmes histoires un petit peu que c'était à l'époque.
Oui, absolument. Puis là, les épisodes, les nouveaux épisodes qui vont arriver au mois de janvier, là, ça va être des nouvelles histoires parce que là, on a tout passé, les anciens scénarios. Puis il va y avoir des nouvelles chansons aussi dans Passe-partout.
Ah, ben c'est bon. Écoute, Richard, on va s'arrêter un instant. Reste avec nous. Au retour, oui. Évidemment, on va discuter avec d'autres auditeurs à savoir quelle est l'émission télévision qui vous a le plus marqué. Pour nous joindre, 514-790-9850, le 1-866-790-9850. Et depuis le début de l'émission qu'on discute de nos coups de cœur télé, les émissions qui nous ont marqués, puis il y a des émissions que j'entends que j'ai pas vues, puis je me dis, bon, faudrait que je me rattrape, là, vraiment. comme Omerta, j'ai pas vu Omerta encore. Il faudrait vraiment que j'aille
écouter ça. Jamais pas un épisode.
Jamais, jamais, jamais. Je sais pas où j'étais là, dans une grotte, là, mais j'ai rien vu. Toi, Justine, t'as des réactions?
Beaucoup de réactions via le 98-985. On a quelqu'un qui nous écrit Radio Enfer. Moi, j'ai écouté ça.
Oui.
C'était à l'époque de Canal Famille, puis Richard Therrien qui est toujours avec nous. Hein? Les gens qui avaient Canal Famille, moi, je me souviens, il y avait deux gangs. Hein? Ceux qui avaient le corps, puis ceux qui n'avaient pas le corps.
Ouais. Oui. Et c'est Canal Famille, c'est mythique. Puis Radio Enfer, c'est mythique. Puis ça repasse ça aussi à Unitv. Tu vois, il y a beaucoup d'émissions dont on parle ce soir qui sont diffusées sur Unitv.
Ah non, c'est très bon. On a quelqu'un qui nous écrit Rintintin, un chien qui sauvait les gens. Donc, c'est un jeune orphelin hein, avec son chien genre dans le Far
début
West.
70, ça peut-être?
Oui, exact. On a aussi du côté de la télé américaine Fresh Prince of Bel-Air avec Will Smith. Ça, c'est Jonathan qui nous dit ça, où ça a marqué Un gars, une fille. On passe pas à côté, créé par Guy Lepage. Ça a été repris à combien de fois partout dans le monde, Richard?
Je sais pas, mais beaucoup. C'est le plus gros succès québécois international. Et encore aujourd'hui. Puis c'est vraiment un success story, ça, Un gars, une fille.
Ouais, chaque pays a sa version, là.
Oui, puis les gens pensent tous que ça vient de leur pays. En France, là, tu peux t'obstiner avec un Français, puis il va te dire « Non, non, Un gars, une fille, ça vient d'ici. »
C'est d'ici avec Jean Dujardin.
Oui, c'est ça.
Alors, avec Guy Lepage, puis Sylvie Léonard. Ah, c'est bon, ça.
Oui.
Comédie de situation québécoise. On voit peut-être moins ça maintenant.
Bien, il y a « Entre deux draps », qui peut s'apparenter à ça, qui est excellente, hein, qui revient d'ailleurs sur Nouveau là, cet automne.
Et je vous laisse sur un souvenir, Symphorien avec Gilles Latulippe.
Ben oui, on a Ephraim avec ses jokes ratés.
Oui, un grand Jeannette classique.
Sto, là-dedans, Juliette Huot. Alors, continuez, on se fait plaisir ce soir. Vous nous appelez 514-790-9850. Alors, quelle est l'émission de télévision qui vous a le plus marqué?
On va jaser avec Pierre maintenant. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir.
Alors, vous, c'est quoi votre émission qui vous a le plus marqué?
Josée, avant moi, elle m'a tout enlevé mes scoops quasiment.
Ah, ben c'est pas grave. Allez-y, on vous écoute.
Ah non, mais moi, les Euraliens et puis les Santos de Santos, Richard, il disait, moi, je me rappelle, là, j'avais pleuré parce que je m'en allais à la maternelle et puis là, je disais, je pourrais plus écouter. Puis finalement, ben dans les classes, ils amenaient les grosses télévisions sur les roulettes. Puis on a pu les écouter le matin, ça, j'étais content. Mais là, je pourrais vous parler toute la journée. Vous remémorez plein de séries, là. Lance et Compte, lors du temps, j'écoutais ça en même temps.
Oui.
C'était quasiment en même temps.
C'était notre soap québécois.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, Dynastie, lui, dernièrement, j'ai beaucoup aimé O. J'ai adoré O. Mais écoute, les séries, il y en a, Chambre en ville, il y en a plein, là. Mais moi.
Pierre, êtes-vous là?
Moi, elle me faisait peur. Elle me faisait peur.
Qui vous faisait peur? Excusez-moi, Pierre, on a manqué la dernière phrase.
Ouais, Fanfreluche, moi, elle me faisait peur.
Ah oui. Moi, c'était la sorcière dans Fanfreluche qui me faisait peur. Pas Fanfreluche, c'était la sorcière.
Oui, c'est en plein ça, c'est en plein, c'est ça. Non, les émissions, vous me remémorez mon enfant. J'ai 52 ans, là, puis j'en ai écouté Les Moineaux puis Les Pinsons, puis vous avez parlé tantôt de Laïs Brossard, là.
Oh, oui.
Ça, j'écoutais ça lors du temps. Pas lors du temps, mais...
Entre chiens et loups.
Oui, c'est en plein ça, Entre chiens et loups. Donc, non, c'est fou comment j'en ai écouté, là. Là, c'est ma conjointe qui regarde pas mal toutes les séries québécoises. Mais j'adore ça.
Merci beaucoup, Pierre. Merci de votre appel.
Bonne soirée.
On discute avec Diane. Bonsoir, Diane.
Bonsoir.
Vous avez une soirée, non pas une soirée, mais une série mythique, là.
Oui, moi, c'était Lance et Compte. Il y avait tellement de la persévérance dans ces émissions-là, de venir à bout de soi, puis tout ça. Puis il y a ma petite nièce, elle est rendue grande maintenant parce qu'elle est née dans les années fin 80, quand que Lance et Compte jouait.
Mm-hmm.
Puis elle est née prématurée.
OK.
Puis on l'a appelée Suzy à cause de Suzy Lambert, qui lâchait tellement pas. Elle était prématurée, puis vraiment, là, c'est son nom est fantastique, puis elle s'en sort bien dans la vie, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, cette émission-là, ça me marque à tout jamais.
Ça, Richard, ça doit arriver souvent, comme ça, des personnages qu'on a tellement aimés qu'on décide finalement de prénommer nos enfants avec ces noms-là.
Il y a eu beaucoup d'Émilie pendant Les Filles de Caleb.
Ah oui,
oui, il y a beaucoup d'Émilie qui se sont appelées à cause de cette série-là. Oui, c'est sûr que Il y a des noms comme ça. Je pense pas qu'il y a eu tant de Lola, par contre. Là.
Ouais.
Mais, oui, certainement. Puis l'Anse et Compte, là, on va se le dire, c'était la première vraie série lourde, là, si tu veux, à gros budget. Avant, on ne faisait que des téléromans dans des studios avec, tu sais, quand tu fermais la porte, puis là, tu voyais un petit peu le mur bouger, là. Ben, c'était fini, ça, avec l'Anse et Compte. Là, on tournait seulement en extérieur. Puis ça a vraiment, après ça, ça a déboulé. Là. Ça aussi, ça a révolutionné un peu la télé. Puis il y avait ça très osé aussi
ben,
par
c'est
moment.
C'est ça, la nudité. Là, parce que moi, je me souviens que j'avais peut-être 12, 13 ans, puis ma mère ne voulait pas que j'écoute ça.
Ben non, je comprends. Non. Je comprends que ça, tu n'avais pas le droit. Mais c'est ça, si on ne voyait pas ça avant à la télé. Donc ça aussi, c'est venu brasser des affaires au Québec.
Merci beaucoup de votre appel, Diane.
Ben merci, bonne soirée.
Bonne soirée, on va discuter avec Raymond maintenant. Bonsoir, Raymond.
Oui, bonsoir.
Alors vous, la série télé, l'émission que vous avez le plus marquée, c'est laquelle?
C'était Fury, le cheval.
Ah oui.
Fury, il l'appelait souvent, puis il allait l'aider.
OK.
Il y avait aussi Bonanza. Bonanza, oui. C'était un écurie western, oui, c'est ça.
Oui.
Ça, c'est
avec Michael Landon.
C'est ça, hein?
Oui.
Oui, oui.
Puis comme série québécoise, est-ce que vous en avez?
Ben non, c'est surtout ceux-là qui me reviennent.
OK, ben c'est correct. Ben merci beaucoup de votre appel, Raymond.
Merci.
Au revoir. On discute avec Jean-Pierre maintenant.
Allô.
Allô, vous, votre série télé qui vous a marqué? Ça, c'est-tu Dallas?
Non, c'est Star Trek.
Ah, excusez.
Ah oui, ben oui.
On peut dire aussi que c'est une série qui a marqué, disons, la science-fiction.
Ouais.
On regarde des choses aujourd'hui, il y a des choses à temps qu'on a de nos jours. C'est précurseur, voilà. Ça, c'est fort. Formidable! Puis, bon, les films qu'il y a eu de ça, après, ça a été les gens ont suivi ça.
Mais
ça m'a marqué beaucoup.
Mais vous, oui. Jean-Pierre, les nouveaux Star Trek, est-ce que vous avez embarqué ou c'est vraiment les vieux que vous aimez, là?
Oui, j'ai regardé un petit peu aussi les nouveaux, mais c'est sûr que William Shatner, puis Miss Spock, tout ça, même s'il est revenu dans... Tu sais, il y a des trackers qu'on appelle. C'est une série qui a perduré. Il y a beaucoup de générations qui ont embarqué. C'est ça qui était la force de cette série-là. Puis au niveau québécois, vous avez peut-être reculé beaucoup en arrière, mais je disais Captain Bonhomme.
Ah, ben
oui. Voyage.
Ça, c'était la liberté totale. Hein? Il improvisait. Oui. Il se racontait, oui. Il se faisait comme une espèce de petit scénario, puis là, il partait, puis là, ça s'en allait dans toutes les directions. Ça, c'était une autre époque.
À la fin, c'était quasiment une émission pour adultes.
Oui, oui. Il y avait des petites blagues à double sens, des fois, là. Oui, oui.
Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était, je pense que Michel Noël, puis sa gang, Gilles Latulippe, M. Giguère, il y a eu beaucoup de personnages. Marqué
Fernand Gignac, mais oui.
Oui, oui. C'était des belles années. Puis, c'est le côté québécois, c'est ça, mais Star Trek a amené aussi Perdu dans l'espace.
Oui.
Très bon.
Oui. Oui.
Alors, ça, j'ai bien ça. Il était repris en film récemment. Je pense qu'on était gâtés au niveau de la télévision.
C'est vrai. C'est vrai.
Québécoise.
Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Ah, c'était agréable. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée. On discute avec Denis. Bonsoir, Denis.
Hey, bonsoir à vous deux, mesdames. Bonsoir à Richard. Ça va bien?
Oui, ça va bien, vous?
Good, good. Ben oui, ben oui. Ben là, vous avez tout dit, mais je vais mettre tout au principal, parce que moi aussi, Richard, les j'appelais ça les TV sur pilotis pour les oraliens.
Oui.
Quand on était mal commode, notre institutrice sortait la TV, puis on était tellement mal commode qu'on ne manquait pas une émission. On l'écoutait. Alors, mais moi, c'est Six pieds sous terre, je l'avoue, là.
Ah oui.
La finale, j'ai pleuré ma vie. Je l'ai réécouté sur YouTube avec la musique de Liane, quand qu'elle part Claire, quand qu'elle part en Prius, là, puis qu'elle voit toute la gang. Ah, j'ai dit, wow, quelle finale. Digne.
Tu parlais de la finale des Invincibles tantôt, mais au niveau international, moi, encore à ce jour, la finale de Six pieds sous terre, là, Six Feet Under,
ouais.
C'est la meilleure finale de tous les temps d'une série. C'est, ça n'a jamais été battu.
Ben, c'est pour ça que j'appelle, pour lui rendre hommage. Moi, j'ai jamais vécu ça, jamais. On dirait que les personnages, c'est mes chums, là, tu sais, puis celui qui fait Dexter, Michael C. Hall, je pense.
Oui, oui.
J'ai fait Dexter à cause de lui, puis c'est avance aussi à la quatrième saison. Mais là, Richard, mesdames, je suis dedans, puis comme à l'ancienne, je veux pas l'écouter en binoire.
En rafale, OK.
Ouais, je l'écoute à 5 heures à Radio-Canada. C'est comme la vie, mais américaine avec du budget. C'est Notre vie des Césars.
Oui.
Une autre très bonne série. Oui, absolument.
Mais je pense qu'ils vont diffuser aussi la saison 5, hein, Radio-Canada, si je ne me trompe pas.
Oui, ça s'en vient ou à RTV, là, un des deux. Okay. Oui.
Netflix, ils ont tout, sauf que mon anglais est trop déficient. Et puis, je veux l'écouter. Non, mais ça, tu sais, c'est stéréotypé. Ils n'ont pas oublié rien, mais c'est très bon. Ça me réconcilie avec la vie.
Ouais, merci beaucoup, Denis, de votre appel.
Allez, au plaisir, puis super, bye, tout le monde.
On va s'arrêter un instant. Merci beaucoup, Richard, hein, d'être avec nous ce soir, vraiment.
Ça fait plaisir.
Puis au retour, c'est ça, pense-y, parce que j'aimerais savoir la série que tu aimerais voir une suite.
Ah, OK. Okay. Je pense à ça.
Pense à ça. 19h45, on s'arrête un court instant. Si ça vous tente de nous jaser de votre série télé qui vous a le plus marqué, 514-790-9850. Ou encore le 1-866-790-9850. Et pendant la pause, je discute avec Justine et on se disait, hey, ça fait du bien. Hein? Ça, c'est vrai que ça nous fait du bien d'aller dans la nostalgie, de se rappeler des moments de télé qui nous ont marqués.
Des souvenirs.
Ouais.
Ah ouais, vraiment. D'ailleurs, en parlant de souvenirs, il y en a beaucoup qui m'ont écrit via le 98985, « Ma sorcière bien-aimée »,« Papa a raison aussi », c'est revenu. Ça va faire sourire. Je suis persuadée, Richard Terrier, qui est toujours là avec nous, Carole, qui nous écrit « Jamais deux sans toi ».
Oui, ben oui, puis il y a eu deux générations en plus, dans les années 70 et après dans les années 90. Jamais 203, c'est une excellente série.
Ben oui,
ça,
moi, j'avais...
Fournier.
Exact, puis moi, j'avais écouté la suite quand j'étais plus jeune.
Les Héritiers du Val.
Voilà, oui. Ah, ça, c'était excellent. C'est excellent. Un peu plus jeune, il y a quelqu'un qui nous écrit Ramdam, quelqu'un nous a réécrit la fameuse fusillade dans l'émission 19-2, une émission qui, vraiment cet épisode-là, à notre auditeur, l'a marqué. C'était tellement intense, puis on se souvient.
C'était comme un
plan-séquence.
C'est ça, plan-séquence qui durait je ne sais plus combien de temps. Là.
Moi, j'étais au visionnement de presse et on ne savait rien, nous. Personne ne nous avait rien dit. On était là, sur le derrière. Je veux dire, c'était vraiment... c'était frappant, cet épisode-là.
En 19-2, ça a tellement marqué.
Oui,
écoute,
excellente
série. Est-ce que ça a surpassé même toutes les séries policières? Sincèrement, ça va être dur à battre. Bon, là, il y a District 31, mais 19-2, c'est un autre... vraiment une
c'était
autre
taille.
Non, c'est ça, exactement.
C'est dans les meilleures séries policières qu'on a faites, oui.
Vraiment. Oui. On a Annie et ses hommes, c'est beaucoup revenu aussi via la messagerie texte avec notre Guylaine, évidemment. Alors, les lignes sont pleines, je ne te cacherai pas. Valérie, les gens veulent s'exprimer sur notre question qu'on vous pose ce soir. Quelle est l'émission de télévision qui vous a le plus marqué?
Et je vais justement discuter avec Richard parce que je suis curieuse d'entendre ta réponse. Série que tu aimerais voir une suite maintenant, une série que tu as aimée, puis tu dis ça, là, ça... J'en ai pas eu assez. J'aurais besoin de voir d'autres choses.
Il y en a pas beaucoup parce que moi, autant je suis nostalgique, autant il y a des affaires, je pense, que j'aime mieux garder dans le bon souvenir que j'ai eu. Parce que des fois, tu refais ça des années après, puis c'est pas nécessairement comme tu aurais souhaité. Mais par contre, il y a une série qui s'appelle Demain des hommes. Je sais pas si tu as vu ça.
Je l'ai pas vu, mais il y a quelqu'un qui nous écrit, série récente qui n'a malheureusement pas eu de suite.
Exactement. Ouais. Il y a eu une seule saison, puis là, il y a eu un problème entre le producteur puis le diffuseur. Et malheureusement, on n'a jamais vu la deuxième saison. Et pourtant, cette série-là méritait une deuxième saison.
C'était avec du hockey? Oui.
Oui, c'était des jeunes. Ligue junior, puis c'était vraiment bon. Puis moi, je suis pas un amateur de hockey et j'ai adoré cette série-là.
Donc, ce serait ta suggestion s'il y a des producteurs
qui
nous écoutent.
Oui, il faudrait qu'on le voit un peu un jour, cette deuxième saison.
Hey, Richard Terrien, je rappelle que tu es chroniqueur au journal Le Soleil. Un énorme merci pour ta présence ce soir. Ça a été le fun que tu pimentes notre ligne ouverte. Puis on va aller tout de suite avec d'autres auditeurs,
merci.
Évidemment. On va essayer d'en faire en rafale. Puis Richard, quand tu veux, là, tu nous appelles.
OK, à bientôt. Bon. Merci,
à bientôt,
bye-bye.
Merci beaucoup. On discute avec Patrick maintenant. Bonsoir, Patrick.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, vous? Oui, moi, je dirais...
Il faut baisser le son de la radio.
Oui, je viens de comprendre.
Okay.
moi, je dirais... je sais pas si ça a été dit, là, mais Skippy.
Skippy. Ah, ben oui, ben oui.
Skippy. Puis Lassie. Il y a eu Miami Vice aussi, côté américain.
Ah, ben oui, ben oui. Avec Don Johnson, puis c'est... ses vestons
roses.
Ben oui,
rose, la Dustin,
ben oui je m'en souviens.
C'est un bonhomme, là, vite, vite, de même. Là. Il y a eu Gadarac, Albatar, puis les pierres à feu.
Ah oui.
C'est vrai, j'écoutais ça, moi, le midi.
Ben c'est ça, le pierre à feu, ça accompagnait le dîner. Là. Tu revenais dîner à la maison, si t'étais à l'école, puis là, t'écoutais tes pierres à feu.
Oh, mais merci beaucoup. Je serais tellement chicané pour ça, moi, parce que je dînais pas, puis j'écoutais ça. Oh!
Bon. Merci beaucoup, Patrick. Bonne soirée.
Bonne soirée, bye-bye.
Bonsoir, on parle avec Paul maintenant. Bonsoir, Paul.
Ben bonsoir, ça va bien?
Ça va, vous?
Moi, j'ai trippé sur les marionnettes.
Ah, OK.
Les sentinelles de l'air.
Ah, oui.
Avec toute l'équipe, là, écoute, j'écoutais ça religieusement. Lady Penelope et sa fameuse voiture. Virgil, Allen, Brain qui était dans l'espace. Scott, le père Jeff et la petite Tintin.
OK, vous vous en souvenez vraiment. Puis c'était drôle, on voyait les cordes puis tout ça, là, comme on les voyait bouger.
J'ai encore les véhicules en métal, les die-casts qu'il y avait dans le temps.
OK.
J'ai toutes les fusées chez nous encore.
4, 3, 2, et 1.
Ah, moi, quand j'entendais ça à la télévision, là, ma mère, elle disait, il s'en vient.
C'est bon. Ouais,
il y avait Captain Scarlett avec, dans ce temps-là, il y avait Joe 90, Physique Sol 5.
Hey, vous avez Mike toute une mémoire, Paul, en tout cas.
Merci. Il y en avait un autre qui était bonne, c'était UFO Alerte dans l'espace.
Ah, ça me dit rien.
Cosmos 99.
Oui, c'est ça. Ben, merci.
Puis UFO, Alerte dans l'espace, c'est un peu semblable à Cosmos 99.
OK.
T'as eu après Perdu dans l'espace avec Dr. Smith, puis Robot qui parlait là, drôlement, puis tout le temps, danger.
Paul, je vais devoir vous arrêter parce qu'il y a Carole qui est là aussi, puis j'aimerais ça lui jaser juste avant que l'émission termine. Merci beaucoup de votre appel.
Oui, puis bravo pour l'émission en soi.
Vous êtes gentil, merci beaucoup. Bonsoir, Carole.
Bonsoir. Moi, ça n'a pas été dit, c'est un téléroman que j'écoutais avec ma mère, peut-être dans les années 65, Rue des Pignons.
Ah, oui.
C'était Marie-Josée Longchamp qui jouait dans ça. Un autre comédien.
Il n'y avait pas Vincent quelque chose? Je vais chercher le nom. Là. Ça ne viendra pas. Mais Rue des Pignons, oui. Donc, vous avez écouté ça à cause de votre maman?
Oui. Ben oui, parce que c'est un téléroman. Je ne sais pas si ça joue à tous les jours ou à toutes les semaines.
Ah, vous entendez la musique, là?
Oui.
Ça rappelle des souvenirs. Est-ce qu'il y en a un autre?
Oui, c'est ça. C'est la chanson terme, ça.
Merci beaucoup, Carole, de votre appel.
Merci, bonjour.
Bonne soirée. Les messages, ça continue de rentrer, évidemment, puis les lignes, ça sonne encore. Merci beaucoup de votre participation encore ce soir, parce que vraiment, ça a été le fun de se remémorer ces souvenirs-là.
Ah oui, et se remémorer, puis bravo à Mario Gilles-Anglois, à la console avec la musique, parce que qui dit télé, qui dit moment fort, moment marquant, ça vient avec la musique. Il veut pas la télé, les émissions, là... C'est la musique qui soutient tout ça, qui soutient le drame, les comédies, tout ça.
Oui, puis tu sais, quand on regarde, on retourne, il y en a qui disent, bon, moi et l'autre aussi avec Dominique Michel. Michel et
Denise Filiatro.
Il y en a plein. Puis c'est vraiment quand on va dans notre souvenir. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous écrit Fortier. Fortier, ça aussi, ça a été une émission.
Tout à fait.
Avec,
Sophie Lorrain.
Mes mots. Oui, c'est ça.
Sophie Lorrain,
qui a été une série marquante. Il y a Bobino qui revient encore. Hawaii 5-0, ils en ont fait des nouvelles.
Je pense que les auditeurs nous envoient un message, Valérie, de la nostalgie. On aime ça un jeudi, peut-être?
Oui, on pourrait peut-être reprendre des jeudis nostalgie. Vous pouvez nous écrire si vous avez envie de nous donner des idées. On est ouverte et on vous souhaite, évidemment, on n'est pas là demain soir, on vous souhaite un super week-end. On va se retrouver mardi, puisque lundi, c'est la fête du travail. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bonne soirée.